CQFD. À réécouter sur rts.ch/CQFD.
Faut-il restreindre drastiquement l'usage des fluoroquinolones? Ce sont des antibiotiques largement consommés en Suisse. La liste des effets indésirables graves s'allonge au point que les agences de surveillance des médicaments émettent de nouvelles alertes, Cécile Guérin.
Oui, il faut le répéter, il n'existe pas de médicaments sans effets secondaires, mais quand ces effets toxiques dépassent les bénéfices assurés par le traitement, alors l'alerte est de mise. Les fluoroquinolones sont une classe d'antibiotiques bien connue. En Suisse, ils ont pour nom vraiment très barbare, norfloxacine, ciprofloxacine, ofloxacine, levofloxacine, moxifloxacine. Et les effets indésirables sur les tendons de ces molécules sont assez connus, assez bien connus. D'autres effets graves ont été rapportés depuis 2010 concernant l'aorte et récemment la rétine. Du coup, l'Agence américaine de santé en a restreint l'utilisation en 2016. Le Comité européen de pharmacovigilance a pris des mesures similaires en 2018, suivies par Swissmedic en 2018 et 2019. Dans ce contexte, je vous propose d'écouter l'histoire de Paul, sportif amateur d'une cinquantaine d'années, dont la vie a été bouleversée par la prise de 3 jours de fluoro. Quinolone, on l'écoute.
Alors je fais beaucoup de vélo et donc en janvier j'ai roulé pas mal à vélo, probablement dans la pluie, le froid, et je me suis retrouvé donc avec une cystite en fait, sans complications, donc j'avais uniquement des douleurs. Donc j'ai été consulté à un hôpital universitaire, le service des urgences, la permanence en fait. Et donc là ils m'ont fait les tests, j'imagine, habituels, donc un test de bandelette qui a donc confirmé qu'il y avait des leucocytes positifs, il n'y avait pas d'inflammation de la prostate, il n'y avait pas de fièvre mesurée, et alors les tests sanguins ne montraient pas de syndrome inflammatoire.
J'imagine que le médecin dit que c'est une infection urinaire.
Voilà, tout à fait. Après m'avoir donc donné le diagnostic, me prescrit un antibiotique.
Et l'antibiotique, c'était quoi?
Alors l'antibiotique, c'est un antibiotique donc qui s'appelle ciprofloxacine, de la famille des fluoroquinolones. Étant donné que je fais beaucoup de sport, je fais du vélo en amateur à un bon niveau, j'ai posé la question très explicitement s'il y avait une contre-indication entre la prise de cet antibiotique et la pratique de sport intense. Et donc là, la réponse a été tout à fait claire et sans appel, non, il n'y en a aucune. Après 3 jours sur les 7 jours durant lesquels j'étais censé prendre cet antibiotique, et avant donc d'aller rouler à vélo, j'ai été pris d'un doute. Je me suis dit, tiens, j'ai comme un sentiment au fond, antibiotique et sport intense, peut-être que ça va pas ensemble. Et à ce moment-là, j'ai été vérifié sur Internet. Et alors là, ben, j'ai découvert avec un certain effroi donc les effets délétères dont cet antibiotique et cette famille d'antibiotiques étaient capables de causer. Et donc, une fois avoir constaté ce risque, j'ai donc immédiatement arrêté la prise de l'antibiotique. Donc je ne l'ai pris que en fait 3 jours et demi. Et ce n'est que en fait après 1 mois que j'ai commencé à avoir des symptômes.
Quel type de symptômes?
Alors, j'ai commencé d'abord par avoir des douleurs articulaires au niveau du genou, des sensations de brûlure, donc qui sont difficiles à identifier. Et j'ai commencé également à avoir de légères douleurs tendineuses. Et donc, après encore 1 mois supplémentaire, donc fin mars, là, j'ai commencé à réellement développer des tendinopathies. J'ai consulté un médecin du sport qui a fait des IRM, en fait.
Et aujourd'hui, Paul, vous souffrez toujours de ces atteintes du tendon ?
Dans mon cas, c'est essentiellement au niveau des tendons des quadriceps, au-dessus du genou. Et donc ces douleurs aujourd'hui sont telles que je dois aujourd'hui donc calculer mes déplacements, je dois éventuellement me rendre en voiture au bureau, oui, plutôt que de prendre le train, parce que si je marche 2 fois 500 mètres, les douleurs vont être trop fortes le jour qui suit. J'ai des inflammations sur le tendon qui apparaissent. Et alors, ce que j'ai développé aussi récemment, j'ai développé donc aussi non seulement des douleurs dans les tendons, dans les épaules, dans les mains, dans les poignets, les bras, et j'ai maintenant aussi des douleurs articulaires dans les doigts. Et donc là, j'ai consulté un médecin qui évoque la possibilité de dégénérescence dans les articulations. Au niveau psychologique, c'est très difficile parce que ça me ramène en permanence à ce problème quand je suis en train de vous parler maintenant. Et alors, c'est aussi très difficile, c'est tout l'impact que ça a sur ma vie familiale. Donc, c'est très difficile d'expliquer à ma fille, quand elle me dit « Oui, sérieux, papa, que tu ne pourras plus jamais faire du vélo. » Voilà, c'est difficile. Je ne peux plus vraiment participer ou je dois faire attention quand je participe aux tâches du ménage. Donc, c'est vraiment un impact qui change la vie en mal.
Précisons que Paul ne souffre pas d'autres pathologies. Des tests médicaux ont été faits pour exclure des maladies comme la maladie de Lyme ou le diabète. Et en tant que sportif amateur, il n'avait pas eu jusque-là de problèmes de tendons ou d'articulations.
Ces effets secondaires des fluoroquinolones sont connus, Cécile Guérin. C'est d'ailleurs ce qu'a découvert Paul, il nous le disait en faisant des recherches sur Internet.
Oui, le sujet est connu depuis près de 40 ans, mais dans les trois dernières années, des alertes des agences de surveillance des médicaments américaines puis européennes et suisses ont été publiées. Ce qui rend d'autant plus troublant la mésaventure de Paul.
Il y a eu de nombreuses alertes. Il y a eu donc 6 alertes en 10 ans de la FDA, donc l'Agence américaine des médicaments. Il y a eu une audition publique en 2017 de l'Agence européenne des médicaments. Il y a eu en 2018 une première alerte, donc un an avant qu'on me donne cet antibiotique de la part de Swissmedic. Une deuxième alerte en 2019. Et il est très clair que si on m'avait informé des risques et du bénéfice, je n'aurais jamais pris cet antibiotique. Et d'ailleurs, dès que j'ai découvert moi-même les risques, j'ai immédiatement arrêté la prise de cet antibiotique.
Est-ce qu'on aurait pu vous en prescrire un autre ?
Il y a une culture qui a été faite et qui a révélé la bactérie qui était responsable. Et cette culture montre que à peu près tous les antibiotiques disponibles sur le marché, y compris des antibiotiques à spectre beaucoup plus étroit, avec un profil de risque beaucoup plus favorable, était efficace.
Est-ce que le médecin qui vous a prescrit cet antibiotique, vous êtes retourné le voir en lui disant 6 mois plus tard, ben moi il m'arrive ça ?
Alors j'ai eu un contact avec l'hôpital, effectivement, via mon médecin du sport qui a demandé donc de l'aide. Parce que, les tendinopathies causées par les fluoroquinolones sont connues. Par contre, le traitement est lui inconnu et il a quelque part demandé à l'aide. Je me suis retrouvé, disons, face à une situation où, en fait, on m'a dit que, oui, je pensais que c'était à cause de ça, et où on a quand même plutôt cherché à minimiser l'impact de ces fluoroquinolones, en fait. Et donc, la démarche que mon médecin du sport notamment attendait, c'est que l'hôpital en question mette des ressources et fasse des examens complémentaires et essaye de faire des recherches pour trouver éventuellement des traitements pour, si pas soigner, parce qu'apparemment aujourd'hui la solution n'existe pas, mais pour au moins, disons, essayer de diminuer les effets.
Cécile Guérin, vous avez contacté un spécialiste des tendinopathies pour en savoir davantage.
Oui, Pierre-Étienne Fournier est responsable du service de la médecine du sport à la clinique romande de réadaptation à Sion. C'est aussi le médecin attitré de l'équipe suisse de football, figurez-vous. En 2011, il publie un article dans la revue médicale suisse sur l'effet des fluoroquinolones sur les tendons. Le mécanisme exact reste encore à découvrir.
L'action néfaste des fluoroquinolones sur le tendon n'est pas connue. Il y a plusieurs mécanismes qui ont été évoqués. On a parlé d'ischémie au niveau du tendon, on a parlé d'une action toxique sur le ténocyte, qui est une cellule qui fabrique des fibres de collagène. Les fibres de collagène sont le constituant principal de la plupart des tendons, en tout cas des tendons utiles pour l'activité physique. Ce collagène est de moins bonne qualité, les fibres sont plus petites. On a parlé d'un effet toxique aussi sur les mitochondries, qui sont des organelles dans la cellule qui produisent de l'énergie. C'est les principaux mécanismes qui ont été reconnus. Il y en a un autre aussi qui a été décrit. On a des enzymes qui sont les métalloprotéinases, qui sont des enzymes qui sont là pour dégrader un peu les tendons. Et dans tout tissu humain, on a un mécanisme bien balancé entre la dégradation et la reformation pour permettre à ce tendon de vivre pendant 80, 90, 100 ans ou plus. Les fluoroquinolones, semble-t-il, boostent un petit peu le mécanisme de dégradation des tendons.
Ce sont des mécanismes qui sont connus depuis longtemps ?
Alors, les premiers articles datent des années 80, où on a décrit effectivement des tendinopathies qui survenaient et des ruptures tendineuses qui survenaient chez les gens sous fluoroquinolone. Maintenant, après, il y a des études animales avec des cultures de tendons qui ont essayé de mettre en évidence les mécanismes. Mais ça fait plus de 40 ans qu'on connaît ces mécanismes. Les études ont décrit des symptômes qui apparaissaient aussi rapidement que 2 heures après la prise d'un comprimé de fluoroquinolone, parfois 4-5 mois après l'arrêt de la médication. Et quand quelqu'un vient chez moi pour une tendinopathie, eh bien, parmi les questions à poser à l'anamnèse pour savoir quels sont les facteurs de survenue de cette tendinopathie, on pose la question de savoir s'il y a une prise d'antibiotique ou pas et quel type d'antibiotique. Parfois aussi, les tendinopathies sous quinolone sont bilatérales, ce qui est aussi un signe d'appel pour le médecin, à savoir qu'elles surviennent sur les deux tendons d'Achille. Et si un patient vient avec une tendinopathie bilatérale, il faut tout de suite penser au quinolone.
Chaque médecin qui prescrit des antibiotiques devrait donc être vigilant hein, par rapport à cette classe-là d'antibiotiques.
Oui, même si les effets secondaires sont rares, comme ils arrivent aussi parfois très très longtemps après la prise, il est aussi difficile de les comptabiliser précisément. Ces antibiotiques sont fréquemment prescrits en Suisse. 20% des antibiotiques utilisés sont des fluoroquinolones. Pierre-Étienne Fournier est médecin du sport et médecin de l'équipe suisse de football.
Il y a une étude en Ontario qui avait suivi des gens de plus de 65 ans pendant 15 ans et sur ces 15 ans de suivi, il y avait 38% des gens qui avaient pris au minimum une fois des fluoroquinolones. Donc on les prescrit beaucoup sur l'ensemble de la planète probablement.
Une prise d'un antibiotique peut faire l'effet secondaire, hein?
Alors effectivement, il y a des cas décrits dans la littérature où une seule prise peut faire ces effets secondaires-là. Il y a aussi des contre-indications, disons, formel entre guillemets, chez un sportif, ça serait l'utilisation de cortisone et de fluoroquinolone. On sait que les effets toxiques ou les effets néfastes des fluoroquinolones sont augmentés dans cette situation-là.
Si on est sportif, même amateur, mais de haut niveau, et qu'on prend des fluoroquinolones, est-ce qu'on augmente notre risque de souffrir de cette tendinopathie?
En comparant les fluoroquinolones à d'autres antibiotiques, le risque est trois fois plus important d'avoir une tendinopathie si on prend cette classe de médicaments.
Donc, est-ce que un des messages, ça serait, si on est sportif et qu'on doit prendre des antibiotiques, attention aux fluoroquinolones?
Je pense que ce message-là, oui, on peut le retenir. On a banni, en tout cas dans le cadre de l'équipe suisse de football, les quinolones de notre trousse de médicaments. Même si les effets secondaires tendineux sont rares, on est à 0,2-0,4%, mais si par malheur quelqu'un devait avoir cet effet secondaire et être inapte à la compétition, ça serait malheureux pour lui et pour moi.
Et voilà, donc on leur a noté au passage que les footballeurs suisses ne prendront donc pas de fluoroquinolone. Attention aussi pour les sportifs amateurs. Cécile, est-ce qu'on peut guérir de ces tendinopathies?
La réponse de Pierre-Étienne Fournier.
Les tendinopathies liées au quinolone guérissent, parfois plus rapidement d'après la littérature que les tendinopathies liées à la surcharge, mais parfois ça peut prendre jusqu'à près de 2 ans. Les articles les plus défavorables ou les plus pessimistes parlent de devoir attendre 2 ans pour la guérison d'une tendinopathie, ce qui peut se rencontrer aussi lors de tendinopathies non liées à la prise de quinolone.
Et tout le monde guérit ou certains n'arrivent pas à guérir?
Alors, ce qu'on sait du tendon, et c'est Jill Cook, une Australienne sauf erreur, qui a beaucoup publié sur le sujet, elle compare le tendon à un donut, et la lésion du tendon, c'est le trou qui est au centre du donut, et elle dit que de vouloir traiter cette lésion, ça sert à rien, parce que le tendon n'a pas de capacité à récupérer de façon importante si la lésion est grave. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est renforcer le pourtour du donut, et en renforçant ce pourtour, la personne peut fonctionner de façon correcte.
Mais le trou va toujours rester, du coup?
Une cicatrice ou un tendon un peu malade, ça va toujours rester.
On s'intéresse à des antibiotiques qu'on appelle les fluoroquinolones aujourd'hui dans ces QFD. Ces antibiotiques peuvent avoir des effets secondaires importants en s'attaquant notamment aux tendons. Nous sommes en ligne quelques instants avec Bénédicte Huttner. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin adjoint du service des maladies infectieuses aux hôpitaux universitaires de Genève. L'Agence de sécurité des médicaments Swissmedic a émis des restrictions d'usage en 2018 et en février 2019 concernant justement ces fluoroquinolones. Pourquoi en ce moment?
C'est parce que en 2016, c'était déjà l'agence américaine qui avait émis des précautions. Et je pense que la base, c'était un peu le problème de la surutilisation de ces médicaments. C'est des médicaments qui sont très efficaces contre beaucoup de bactéries, qui ont des propriétés qui sont vraiment très favorables parce qu'ils sont très bien absorbés, très bien distribués dans les tissus, avec un très large spectre contre beaucoup de pathogènes. Mais ça a fait aussi qu'ils sont beaucoup trop utilisés. Et on s'est rendu quand même compte que ils peuvent avoir faire des effets indésirables, comme par exemple la tendinopathie, donc notamment le tendon d'Achille, et même amener à des ruptures. Mais il faut quand même souligner que c'est des complications qui restent relativement rares.
Il y a d'autres types d'effets secondaires? Est-ce qu'on en a découvert récemment des nouveaux, notamment sur l'aorte ou la rétine?
Oui, alors C'est toujours très difficile parce que ces médicaments sont très largement utilisés avec des millions de patients exposés. Et bien sûr, on va observer rarement des effets indésirables graves. Maintenant, il y a des effets indésirables qui sont très bien documentés et connus. C'est la tendinopathie, comme on a mentionné, mais c'est aussi la neuropathie, donc c'est les nerfs périphériques qui peuvent être touchés. Il y a d'autres choses où ça reste un peu plus controversé. Il y a quelques années une étude qui avait parler d'une association avec les détachements de la rétine, mais ça reste pas vraiment confirmé. Il y a d'autres études qui n'ont pas vu cette association et les liens causaux restent très douteux. De toute façon, c'est une complication très très rare. Hein. Voilà. L'autre, en février 2019, Swissmedic a fait cette alerte à cause d'une possible association avec des anévrismes de l'aorte, c'est des élargements de l'aorte. Ça aussi, il y a un peu moins de données. C'est aussi des choses qui sont même, voilà, s'il y a un risque, le risque absolu reste très très faible. Donc, voilà, il y a les effets indésirables, c'est certain, mais quand même, en général, ces médicaments sont bien supportés.
Mais quand l'effet indésirable parfois a lieu plusieurs mois après, est-ce que finalement les personnes font le lien avec la prise de fluoroquinolone? Est-ce qu'on a tous les informations concernant des gens qui peuvent être touchés par ces effets indésirables?
Alors c'est toujours un grand problème, non? Comment est-ce qu'on collecte les informations concernant les effets indésirables? Mais si un effet indésirable survient ou un symptôme survient des mois après, c'est aussi très difficile de dire vraiment c'était les médicaments qui étaient pris plusieurs années avant ou mois avant parce qu'il y a tellement d'autres facteurs qui jouent un rôle. Donc ça complique beaucoup l'analyse des effets indésirables et l'attribution causale. C'est pour ça qu'on a besoin de très grandes bases de données et même là, on peut avoir des résultats contradictoires, comme j'ai mentionné avec l'impact sur la rétine. Il y avait certaines études, grandes études qui avaient suggéré une association, d'autres qui n'ont rien vu et ça reste très difficile, surtout si l'effet indésirable est rare, de vraiment dire c'était à cause du médicament. Donc toujours quand il y a quelque chose qui arrive plusieurs mois après, il faut quand même se demander est-ce que c'est encore plausible qu'il y a vraiment un lien avec la prise de médicaments.
Et au vu de ces effets indésirables, est-ce que cette classe d'antibiotiques est trop utilisée en Suisse, hein? On parle de 20% des antibiotiques qui sont des fluoroquinolones, c'est vraiment trop?
Ouais, alors oui et non. Alors, c'est des médicaments qui sont très très efficaces, qui sont aussi sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS. C'est des médicaments qui sont parmi les meilleurs pour traiter certaines infections sévères. Mais il est vrai que on a un problème en Suisse avec la, pas seulement en Suisse, aussi dans d'autres pays, mais en Suisse avec la surutilisation des quinolones pour des infections banales où il y a d'autres antibiotiques qu'il faudra utiliser ou même pas du tout des antibiotiques, notamment les infections des voies respiratoires qui sont souvent d'origine virale. Donc ça, c'est un problème, la surutilisation des antibiotiques quand ils ne sont pas indiqués et la surutilisation des quinolones dans cette situation. Par contre, pour beaucoup d'infections, par exemple des infections urinaires hautes, donc fébriles, des infections des corps étrangers, comme des infections de prothèses, ces médicaments restent vraiment les premiers choix. Ils sont vraiment très importants de les avoir dans l'arsenal. Donc c'est pas du tout qu'on peut dire maintenant on peut renoncer complètement à cette classe antibiotique. Par contre, il faut diminuer l'utilisation parce qu'ils contribuent aussi de façon très très importante à la propagation de la résistance aux antibiotiques.
Et puis faire attention quand on a affaire à un sportif, à une personne de plus de 65 ans ou à un enfant aussi, c'est ça?
Oui, alors pour les enfants, formellement, c'est pas approuvé. Donc, on va pas les donner à des enfants si on ne doit pas. Par contre, il y a des fois des situations où c'est vraiment l'antibiotique de choix et après, il faut voir le bénéfice vers le risque. Donc, pour certains enfants, par exemple avec mucoviscidose, ces antibiotiques sont quand même donnés. Et pour les enfants, c'est surtout basé sur des expériments animaux qui ont montré des problèmes de cartilage chez les animaux, mais c'était jamais répliqué chez l'être humain. On va pas le donner à un enfant si on ne doit pas. Par contre, c'est pas une contre-indication absolue. Par contre, voilà, on va éviter de le donner à des patients âgés qui sont sous stéroïdes. Et si quelqu'un fait beaucoup de sport, il faut peut-être dire de faire un peu moins de sport pendant la prise de ces médicaments. Mais c'est pas une contre-indication absolue.
Et est-ce que vous pensez que cette restriction d'usage est assez connue auprès des médecins généralistes et y compris aux urgences?
Alors, je pense quand même que c'est connu parce qu'il y a quand même pas mal d'efforts maintenant depuis plusieurs années de sensibiliser les médecins Concernant l'impact des quinolones sur la résistance. Et si on regarde la consommation des quinolones en Suisse, il y a quand même une certaine tendance à la baisse.
Mais il faut encore le redire, hein. Attention à utiliser avec prudence.
Et il faut encore les réduire, mais depuis quelques années, on a changé les recommandations pour le traitement des infections urinaires en Suisse. Avant, on donnait beaucoup les quinolones pour le traitement de la cystite de la femme. Et là, clairement, maintenant, c'est plus du tout recommandé. C'est pas le premier choix. Il faut le réserver vraiment à certaines situations particulières. Donc, voilà, il y a une surutilisation qui reste. Il faut encore continuer le travail, mais comme je dis, ces effets indésirables qui sont décrits, ils sont réels, hein, mais ils restent quand même relativement rares. Et il faut pas, si ces antibiotiques sont vraiment indiqués, dire qu'on peut plus l'utiliser. Par contre, pour toutes ces infections respiratoires où il n'y a pas d'indication à traiter, donner un antibiotique, où il y a d'autres antibiotiques qui sont beaucoup plus indiqués, il faut pas utiliser les fluoroquinolones.
De 10h à 11h, c'est QFD.